Pascal Jardin, l'affaire Christelle Blétry. De leur côté, les proches de Christelle estiment que la police ne travaille pas assez vite, ne creuse pas assez loin, ne communique pas assez surtout. Marie-Rose, avec peu de moyens, s'est attribué les services d'une avocate creusotine, mais de la même manière, cette dernière n'avance pas assez vite. Marie-Rose tempête, la police ne prend même plus ses appels. La famille se sent abandonnée, si démunie que Bernard Homais, un ami de Marie-Rose, crée une association pour leur venir en aide, apporter un soutien moral d'abord, une présence et une écoute ensuite. Dès janvier 1997, 70 membres répondent présents pour aider les parents Blétry dans leurs démarches administratives, la recherche d'un bon avocat et leurs actes quotidiens. L'association est baptisée Christelle, pour la mémoire de qui ils cherchent la vérité. Via le JSL, encore et toujours ce journal local, l'association annonce une réunion publique. Le but est de présenter l'association, mais également de récolter des fonds. À l'issue de la réunion, Marie Pichon se présente. Il s'agit de la mère de Christelle Maïri, assassinée en 1986 au Creusot, non loin de là. Unies par une même douleur de la perte de leur fille et un seul but, retrouver leur assassin, les deux femmes ne se quitteront plus. Les mois et les années défilent sans piste fructueuse. Entre 1996 et 2010, 27 suspects ont été interrogés et placés en garde à vue. Toutes les pistes se sont refermées. Avec les années, d'autres familles ont rejoint l'association, qui compte aujourd'hui 12 affaires. Il y a donc Christelle Maïri, Sylvie Aubert et Marthe Buisson, tuées en 1986, Nathalie Maire en 1987, Carole Soltysiak, retrouvée violée et tuée en 1990, Virginie Bluzet, 97, puis Pascal Gilles et Vanessa Thiélon, assassinées en 1999. Plus tard, ce seront Valérie Bourget, Corinne Tarret et Méline Prost qui allongeront la liste des affaires non élucidées de Saône-et-Loire et dont les familles rejoindront l'association. Dans la presse, ces victimes sont appelées « les disparus de la 6 », car les corps ont tous été trouvés dans un rayon de 100 km autour de cet axe routier, tout en Saône-et-Loire. L'association mandate le cabinet Seban et Associés en 2001 pour reprendre l'affaire. L'avocate creusotine a été remerciée pour service mal rendu. Le cabinet Seban s'illustre par ses recherches dans les cold cases, notamment ceux autour des disparus de Lyon et d'Émile Louis, qui sera condamné en 2004. Didier Seban et sa collaboratrice Corinne Herman reprennent l'affaire depuis le départ. Le but principal est que des actes soient demandés régulièrement, de manière à ce que l'on n'oublie pas Christelle, mais surtout pour que l'enquête échappe à la prescription. Avec les progrès de la science, ils réclament des analyses ADN sur les vêtements de la victime. Le retour est démoralisant. Rien. En 2004, une piste est suivie. Celle de l'ogre des Ardennes, Michel Fourniret, cul-de-sac. Les enquêteurs se succèdent et se ressemblent. Certains partent à la retraite, d'autres changent d'affectation. Les juges d'instruction font de même. Marie-Rose en a vu passer des uniformes, à force de secouer les services, convoquer des assemblées, demander des rendez-vous aux ministres. Tout cela dans le but unique de retrouver l'assassin de sa fille, d'empêcher, comme pour le meurtre de Christelle Maïri, la destruction des scellés. Cette hypothèse la hante tant qu'à chacun de ses passages devant le juge d'instruction, elle réclame aller voir, convaincue que c'est par eux que justice sera rendue. C'est aussi l'année de la mort brutale de Gilles Blétry, le père de Christelle. Il ne saura jamais ce qui est arrivé à sa fille et laisse Nicolas et Myriam, les deux autres enfants, dans la douleur et la peine. Que dire de Marie-Rose? Pour supporter, elle se jette un peu plus fort dans sa bataille pour la vérité. À force de démarches, l'association Christelle obtient que l'ensemble des dossiers qu'elle soutient soient rassemblés dans un même tribunal. Ils passent alors tous sous la houlette du juge d'instruction Emmanuel Vion, qui met la pression sur la PJ de Dijon afin qu'elle avance. Depuis 2008, un nouvel enquêteur a été nommé sur l'affaire. Christophe Joliveau commence par compiler l'ensemble du dossier. Il reprend toutes les pièces et les classe par thème. Piste après piste, il vérifie chaque élément. Avec son binôme Raphaël Nedilko, il réinterroge tous les témoins 12 ans après les faits. Non élucidé, une émission diffusée sur France 2, amène quelques témoignages inédits. Là encore, Christophe Joliveau vérifie, refait le parcours des témoins, des suspects. Il va même jusqu'à entendre un homme emprisonné pour le meurtre de son épouse à coups de couteau à proximité de Blanzy, mais cela ne donne rien. Lorsque l'enquête sur le meurtre de Christelle Maïri aboutit avec l'arrestation de Jean-Pierre Murat en 2011 par Nedilco, on opère immédiatement des rapprochements. Encore une fausse piste. De nouvelles demandes d'analyse ADN sont envoyées par le cabinet Seban. Chaque analyse coûte des centaines de milliers d'euros, trop pour la justice qui doit respecter des budgets. Entendre que la vérité sur le meurtre de son enfant ne vaut pas les coups engendrés est inhumain, inacceptable pour Marie-Rose en deuil depuis 15 ans. Deux ans s'écoulent encore avec le duo Joliveau-Nedilco aux commandes de l'enquête. Au printemps 2013, le juge Vion est remplacé par Elsa Oussavi, qui partage son envie de voir les dossiers avancer. Arbitrairement, pourtant, Christophe Joliveau se voit envoyé par sa direction dans le groupe du banditisme, quittant ainsi celui des homicides et son partenaire. Il garde le dossier Blétry à sa charge, mais il est écœuré, démotivé. Marie-Rose se sent une nouvelle fois abandonnée. C'est donc Nedilco qui monte au créneau début 2014. Le travail effectué par Joliveau est impeccable. Toutes les pistes ont été fermées une à une. Seule reste celle de la petite frappe, Anthony Christophe. Nedilco vérifie son alibi, referme la piste. Il n'y a plus que les scellés. Dans le bureau de la juge d'instruction, Nedilco en refait l'inventaire. Qu'est-ce qui a été analysé? Comment? Quand? Après un plaidoyer auprès de la chambre de l'instruction, la décision est prise d'envoyer les vêtements de Christelle au laboratoire de Bordeaux. Le budget fait grincer des dents, plus de 200 000 euros. Mais les résultats en valent la peine. Le jean de Christelle est découpé en de multiples petits morceaux afin d'en extraire tous les ADN possibles, y compris d'éventuelles traces épithéliales. On fait de même avec ses chaussettes, sa culotte, son soutien-gorge et son sac. Le résultat sort après une dizaine de jours. De l'ADN, il y en a, et beaucoup. Il y a bien des cellules épithéliales, comme espéré, mais également du sperme. Le tout appartenant à un seul et même homme. Dans la tête de l'inspecteur, comme dans celle du juge, c'est l'explosion. Du sperme. Cela signifie que l'enquête repose depuis le départ sur des constatations erronées. Christelle a eu un rapport sexuel avant d'être tuée. Élément qui n'apparaissait pas comme important au début de l'enquête, mais qui devient essentiel. Le jean que portait Christelle ce soir-là était neuf. Elle l'a reçu comme cadeau de Noël et le portait pour la première fois ce 27 décembre 1996. Puisqu'elle n'avait pas de petite amie à ce moment-là, aucun autre homme que son agresseur n'a pu laisser son ADN à l'intérieur. Nedilco jubile. Il ne reste plus qu'à passer ce profil au fichier des empreintes génétiques, le fameux FNAEG. Le résultat tombe le lendemain. Ils ont un nom. Pascal Jardin. C'est la toute première fois que ce nom apparaît dans le dossier. Cet homme n'a jamais été entendu par la police ou cité par un témoin. Aussitôt, Nedilco se lance dans une étude minutieuse du passé de ce suspect. Son ADN figure au FNAEG depuis qu'il a été reconnu coupable d'une agression en 2004. Pascal Jardin s'est présenté début décembre à Chalon-sur-Saône, au domicile de Magali, une jeune maman de 24 ans, en tant qu'agent des eaux effectuant des vérifications dans l'immeuble. Magali l'a fait entrer. Pascal contrôle le chauffe-eau et estime qu'il y a des pièces à remplacer. Il fait ensuite le tour de l'appartement, ouvre toutes les portes, y compris celle de la chambre où dort une petite fille de 18 mois. Le compagnon de Magali est présent, il regarde la télévision pendant l'inspection. Pascal Jardin repart en précisant qu'il repassera. Effectivement, il repasse 10 jours plus tard, le 14 décembre 2004. Le compagnon de Magali n'est pas dans le salon, le bébé dort dans sa chambre. Naturellement, Magali laisse entrer Pascal qui lui demande d'aller dans la salle de bain afin de faire couler l'eau dans la baignoire. Lui reste dans la cuisine pour vérifier s'il n'y a pas de refoulement. Alors que la jeune femme s'en va, Pascal ôte ses vêtements, les plie et les pose dans la cuisine. Son couteau s'échappant de la poche de son jean, instinctivement il le glisse dans son slip. Magali trouve le temps long et ressort de la salle de bain au moment où Pascal s'engage dans le couloir pour la rejoindre. Devant un tel spectacle, la jeune femme hurle. Pascal se précipite sur elle dans l'idée de la faire taire, mais il n'a pas le temps de la toucher. Son compagnon est sorti comme une furie de la chambre où il faisait la sieste avec sa fille et attrape Pascal par derrière. Il le fait basculer et le roue de coups jusqu'à ce que Magali crie encore. « Attention, il a un couteau !» Le jeune homme sort Pascal de l'appartement sans ménagement pendant que Magali appelle la police. «